Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. J'ai tiré ce passage de la Bible dite à la colombe. Alors, quand Paul écrit cette lettre aux Philippiens, eh bien, il se trouve à Rome et il se trouve en prison. En prison pour la dernière fois. Et en tant que citoyen romain, vous connaissez, je pense, l'histoire, Paul en a appelé à César pour être jugé à cause de sa foi par un tribunal romain, parce qu'il avait compris que s'il avait été jugé par les Juifs, ceux-ci l'auraient certainement mis à mort. Donc Paul se retrouve en prison. Bon, cette fois, il sait que Dieu ne va pas le délivrer par un tremblement de terre, que cette fois, ben, il va vraiment rester en prison et qu'il va être jugé. Donc c'est un homme qui est enfermé, enchaîné, mais c'est pourtant un homme qui garde la foi et qui a désormais du temps. Ça, il en a. Du temps pour prier, du temps pour partager l'évangile autour de lui en prison, du temps pour méditer la parole, du temps pour écrire aussi. Je me dis, tiens, c'est peut-être marrant des fois quand on a un petit souci, une maladie, un accident, un arrêt de travail, pour se dire, bah, et si jamais Dieu nous faisait un clin d'œil pour que nous puissions aussi prendre le temps, comme Paul, de plus prier, de plus lire la parole et de partager l'évangile autour de nous. Et peut-être que ce temps particulier d'arrêt, c'est comme une prison de Paul que Dieu nous offre pour que nous puissions nous ressourcer, pour que nous puissions bénir aussi ceux qui se trouvent autour de nous et ceux qui sont sur notre cœur. Et c'est donc plus un temps de lamentation ou un lieu de doléance, mais plutôt un lieu de paix, de ressourcement, de communion plus intense avec Dieu, un lieu où on met un soin particulier peut-être à s'oublier pour justement s'occuper des autres. C'est justement ce que Paul va faire, puisqu'il va s'occuper des autres en écrivant, entre autres, la lettre aux Philippiens. Bon, ben voilà, il est en prison. Mais on pourrait se dire, mais Seigneur, voilà, je suis en prison, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté ton serviteur, ils ont arrêté l'apôtre des païens. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'est pas en train de limiter l'expansion de l'évangile parce que Paul est en prison? Mais justement, Paul voit son arrestation et son emprisonnement non pas sous l'angle de l'homme, mais sous l'angle de Dieu. Et quelques versets auparavant, au chapitre 1er, les mêmes versets, les versets 12 et 14, il est dit ceci. « Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Je trouvais intéressant que ce soit les deux passages avec les mêmes versets 12 à 14. Lorsque je trouve particulièrement beau dans ce passage, c'est que malgré la situation difficile que Paul peut vivre, il est porté et renouvelé dans sa communion avec Dieu, mais en plus, son attitude est positive et vraiment un encouragement pour les autres disciples qui sont plus zélés à annoncer l'évangile. On aurait pu croire le contraire, on aurait pu croire que parce que Paul est en prison, eh bien, toute l'Église elle est consternée, elle se cache, un petit peu comme les disciples avaient fait quand Jésus était mort et quand il est ressuscité. Mais non. L'élément positif, la vision positive que Paul a de son emprisonnement, donne du courage aux autres pour pouvoir mieux annoncer l'Évangile. Alors, je ne sais pas si vous vivez dans une situation difficile ou pas, mais sachez que vous pouvez aussi, vous, mettre votre confiance en Dieu et que peut-être, certainement, que ce qui vous arrive peut aussi contribuer au progrès de l'Évangile. Et ça, c'est intéressant. Mais reprenons ce texte de base de Philippiens 3, et j'aimerais le relire pour qu'à la fin de ce culte, on le sache tous par cœur. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, nous dit Paul, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, on l'a lu deux fois, mais des fois, on a besoin peut-être de mieux comprendre ce que Paul veut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en d'autres termes, ce ne sont pas les circonstances de ma vie, aussi pénibles qu'elles puissent être, qui vont m'arrêter. J'ai commencé une course le jour de ma conversion, et tel un athlète, je n'arrêterai pas de courir jusqu'au but final. Pour l'athlète, c'est la ligne d'arrivée. Pour le Paul, c'est le jour de sa mort. Et il dit, rien ne me fera arrêter. Ni la prison, ni la maladie, ni l'incompréhension, ni la solitude. Rien, je continuerai malgré tout à courir. Pourquoi ? Parce que j'ai été saisi par Christ. Et elle le dira trois fois dans ce petit passage. Et parce que j'ai été saisi par Christ, alors je cours. Est-ce que vous vous souvenez de la date de votre conversion? Voilà, j'attends pour que on se souvienne de ces beaux moments. Eh bien, ce jour-là, vous avez commencé à courir. Ce jour-là, vous avez commencé à vivre Philippiens 3, 12. Et aujourd'hui, est-ce que vous courez encore? Je l'espère. Sinon, posons-nous la question, qu'est-ce qui nous a arrêtés? Alors, laissez-moi vous parler et vous interpeller par deux ou trois courses dans lesquelles vous vous êtes engagé à courir. Donc, si on peut remettre... Voilà. Donc, la première course, c'est une course, la course de ta vie, une course personnelle, la course de notre vie chrétienne. Et puis, c'est celle de Paul, hein, puisque lui nous en parle déjà dans le livre des Éphésiens, qui, pas à pas, a fait de lui un disciple de Jésus-Christ. Mais c'est aussi la tienne, c'est aussi la mienne, où chaque pas que nous faisons nous transforme petit à petit aussi en disciples de Jésus. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme celle de Paul, cette course a commencé le jour de notre conversion et va s'achever soit le jour de notre mort, soit le jour de l'enlèvement, si Jésus revient, et il revient bientôt. Donc, ne cesse pas de courir. Tu as commencé quelque chose d'extraordinaire en donnant ta vie à Jésus. C'est fantastique. Persévère. Continue à courir. Il y a des embûches qui vont te faire arrêter de lire ta parole, la parole, la Bible, qui vont t'arrêter de louer Dieu, de prier, de partager l'Évangile avec ton prochain, avec ton voisin, d'être un témoin dans ta famille. N'arrête pas de courir. Et la course suivante, elle ne concerne pas tout le monde. C'est la course de ton couple. Et je veux le dire très clairement, c'est une course à deux. Et c'est une course ensemble. Elle a commencé le jour de ton mariage et les promesses que tu as faites en ce jour-là sont appelées à demeurer de nouveau jusqu'à ta mort ou celle de ton conjoint ou, si Jésus revient, le jour de l'enlèvement. Alors, j'aimerais vous dire, ne cessez pas de courir ensemble. Et je me dis que le 14 février, bientôt là, hein, c'est dans 2 jours. J'espère que vous n'avez pas oublié, sinon je suis là pour vous le rappeler. Mais au lieu de regarder en tant que chrétien cette journée sur le thème du champagne, de la dentelle et des petits cœurs, si nous ressortions notre album de mariage et que nous regardions non seulement ensemble les photos, mais que nous relisions les promesses que nous avons faites ce jour de notre mariage. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait quelque chose pour nous booster, pour nous faire repartir, en tout cas pour nous faire courir plus vite? Et c'est une belle course que nous vivons ensemble. Donc je vous donne des idées, abusez-en. Et puis enfin, la course de ton église, c'est aussi une course en équipe, mais c'est une grande équipe. La Bible, elle dit que c'est un troupeau. Alors, j'imagine un troupeau, alors de brebis, mais je voyais plutôt un troupeau de bisons. Ça impressionne. Et Jésus dira que les portes de l'enfer ne pourront pas arrêter ce troupeau de bisons. Et je me dis qu'on a aussi besoin de retrouver cette course en église, c'est-à-dire de celle qui a commencé le jour où on est devenu membre, où on est venu dans cette communauté, et puis encore aujourd'hui, on court toujours, il y en a ensemble, et bravo. Mais il y a une vie d'église, comme il y a une vie de famille, comme il y a une vie personnelle. Et parfois, on choisit l'un ou l'autre. Eh bien, moi, je vous propose de vivre toutes ces courses en même temps. Et ne te lasse pas de courir dans ta vie de l'Église et de participer à la vie de l'Église. Que ce soit quelque chose qui soit comme une respiration, cette course, comme quelque chose qui est constant. Imaginez quelqu'un qui court qu'une heure et demie par semaine, puis qui se dit vouloir aller aux Jeux Olympiques. On va rire de lui. Il ne va pas forcément achever sa course dans les bonnes conditions. Mais vous savez, chacune de ces courses a des exigences. Et puis, à côté de ces exigences, il y a aussi des réalités. Quand on court, à un moment donné, et quand on court depuis longtemps, il y a une certaine fatigue qui s'installe. Parfois un épuisement. Parfois une monotonie. Et je peux parler autant dans une vie personnelle que dans une vie de couple ou d'une vie d'église. Parfois un manque de foi. Et toutes ces choses, toutes ces réalités nous ralentissent parfois, et même parfois arrivent à nous arrêter. Puis dans des cas que je souhaite très rares, ces réalités nous font parfois quitter le stade et nous éloigner de la foi et de Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous dit, courage, reprends ta course, reprends tes courses, parce que je te fortifie. Vous savez, ce n'est pas une parole qui sort de la bouche de Paul pour la première fois. Dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, il nous est dit aussi que nous étions appelés à courir dans de bonnes conditions. Et puis le verset 31 nous dit ceci, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ils ne se fatiguent pas. » Donc la course, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel comme ça au travers des épîtres de Paul. C'est une réalité dans le cœur de Dieu qui nous demande, si on a commencé cette course, de pouvoir l'achever. Et Dieu renouvelle nos forces. Il permet qu'on ne soit pas fatigué. Il permet qu'on puisse courir dans de bonnes conditions. Et ça me fait penser à ce verset dans 1 Jean qui dit « Tes commandements ne sont pas pénibles. » Et c'est vrai que la course, on pourrait la voir pénible, mais en fait, elle ne l'est pas. Bien sûr, il y a des moments difficiles dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple ou dans notre vie d'église. Il y a des montées qui nous semblent interminables. Il y a des terrains boueux qui nous empêchent d'avancer rapidement. Mais apprenons à ne pas apprécier la course en fonction de notre parcours ou ambiant, mais du prix qui nous attend. Et quel est ce prix? C'est la gloire éternelle dans la présence de Dieu. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est un prix qui n'a pas de prix. Je vais vous dire, mon avenir, ma passion, c'est d'achever cette course. Ce n'est pas de courir en vain, puis de m'arrêter quelques mètres avant l'arrivée, mais c'est d'aller jusqu'au bout dans ma vie chrétienne, jusqu'au bout dans ma vie de couple, jusqu'au bout dans ma vie d'église. Et puis, si au cas vous auriez oublié ces trois versets, on va les relire ensemble. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, j'ai comme une question encore qui me dit, mais de quelle manière Dieu me fait courir? Eh bien, il est dit dans le passage suivant, il est dit ceci, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je voudrais vraiment redire ces choses parce qu'elles sont fondamentales. Oublions ce qui est en arrière. Dans ces trois courses, on retrouve des mêmes choses que nous devons oublier. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager trois choses que nous sommes appelés à oublier. Alors, je vais vous surprendre, vraiment, j'espère. Oublie les belles années. Je vous ai surpris. Vous savez, ces belles années où on dit « Ah, de mon temps, c'était pas comme ça. C'était mieux. On avait plus de ci, on avait moins de ça, puis on était plus heureux, on avait plus de ci, on avait plus l'évangile ou des choses comme ça. » Et puis, finalement, plus on vieillit, plus on passe maître pour comparer ce qui est passé avec le présent, et même pour comparer le passé avec ce qui n'est pas encore arrivé. En se disant, certainement, avant c'était meilleur. Mais si le meilleur était devant? Si les plus belles années de ta vie, quel que soit ton âge, si les plus belles années de ton couple, si les plus belles années de notre Église étaient encore celles à venir. Est-ce que c'est du domaine de l'impossible que Dieu puisse avoir des projets extraordinaires pour nous pour demain? Moi, je crois que c'est possible. Mais je crois aussi que cette nostalgie du temps passé peut étouffer les belles années que Dieu a prévues pour nous. Et ne croyons pas, dans notre vie chrétienne, dans notre mariage ou dans l'Église, que nous avons déjà mangé toutes les vaches grasses et qu'il ne nous reste que les vaches maigres à manger. Ne croyons pas ce mensonge. Il ne nous reste pas que des vaches maigres. Il y a encore des vaches grasses devant nous. Le meilleur, il est devant. Et puis, oublions ce qui est en arrière, donc déjà mes belles années. Vous savez, quand je me regarde dans la glace et que je vois la photo de mon mariage, c'est pas le même homme. Et j'ai changé physiquement, intellectuellement, spirituellement. Mais chaque âge est beau. Chaque partie de notre vie, elle est belle. D'abord parce qu'on la vit avec Jésus et que Jésus a des choses à nous dire à tout âge. Puis ensuite parce que si on n'est pas content de ce corps, ben on ne peut pas changer. On peut l'embellir, on peut essayer. Mais apprenez à être content de l'âge que vous avez. Apprenons à être content de l'âge que nous avons. Parce que c'est un bel âge. Et certainement, les années à venir sont aussi des années prometteurs, belles. Deuxièmement, oublie tes échecs. Oublie tes échecs parce que non seulement ils épuisent notre âme, mais ils nous conduisent inexorablement à la tristesse et au découragement. Et parfois, c'est ce qu'on garde de notre vie passée. Ou c'est ce que les autres gardent de nous. Alors, est-ce que nous croyons à la valeur du pardon? Un pardon qui efface, un pardon qui nettoie, un pardon qui purifie, un pardon qui redonne courage. Alors, si votre réponse est oui, alors ma suite, c'est de dire, oublie tes échecs et va de l'avant. Imaginez l'apôtre Pierre, s'il avait conservé ses échecs, s'il s'était ressassé toute sa vie, ses échecs, et particulièrement le jour où il a renié Jésus par 3 fois. Et imaginez aussi ce qu'auraient pu dire ses camarades, les autres disciples. J'ai imaginé. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va le punir? Est-ce qu'on va lui interdire l'accès au ministère? Est-ce qu'on va l'exclure de l'Église? Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en lui? Est-ce que son péché va entacher notre réputation ou notre Église? C'est vraiment des questions, des vraies questions que les disciples auraient pu se poser et que nous pouvons, nous aussi, nous poser selon ce qu'il arrive dans notre vie. Mais qu'a fait Jésus, lui? Jésus va lui pardonner. Il va le relever pour à nouveau l'utiliser dans le royaume de Dieu. Là, j'aimerais prendre une image du football, non pas comme un remplaçant, mais comme un attaquant, comme un buteur. Et quand on est un attaquant, quand on est un buteur, on court. Et c'est ce que Pierre a fait après avoir renié. Rempli du Saint-Esprit, il s'est remis à courir. Mais pour cela, Pierre a dû croire au pardon. A dû croire que ce pardon était aussi pour lui et qu'il était complet. Pour cela, Pierre a dû croire à sa réhabilitation. Il a dû accepter le regard des autres comme étant un regard non pas de suspicion ou de méfiance, mais un regard d'amour, un regard de collaboration effective, un regard de chrétien. Pierre a dû accepter de tirer un trait sur ce passé assez douloureux. Il a dû accepter d'oublier ce qui est en arrière. Et c'est un choix que d'oublier ce qui est en arrière. Et c'est le choix que nous avons été appelés à faire à notre conversion, pour aller de l'avant, pour recommencer à courir. J'avais cette image d'un jeu qu'on jouait parfois, où on nous attachait un énorme élastique autour de la taille, qui était relié à un pieu, et puis on devait courir pour arriver le plus loin possible. Et puis il y avait un but qui était inatteignable. Et puis on devait courir, 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 courir. Puis on arrivait à 3 mètres, à 2 mètres. Alors on était fort. Puis celui qui arrivait à 1 m 50, il était encore mieux. Et puis on essayait encore, puis on n'arrivait pas. Mais pourquoi on n'arrivait pas à atteindre le but? C'était parce qu'il y avait un élastique qui nous retenait. Eh bien, oublier ce qui est en arrière, c'est couper l'élastique. C'est lâcher ce qui nous retient et qui nous empêche d'avancer jusqu'au bout. Oublie tes belles années, oublie tes échecs, oublie tes réussites et tes succès aussi. Donc, voilà. On a tous vécu des choses extraordinaires. On a tous vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Mais si tu as vécu des miracles extraordinaires, des grandes choses avec lui, ce n'est pas ça qui doit être le moteur de ta vie. Ce n'est pas les souvenirs de ce que Dieu a fait pour toi qui doivent te faire aller de l'avant. Ce qui doit te faire aller de l'avant, c'est Jésus. Et Jésus uniquement, le Christ. Pourtant, on a quand même un certain plaisir, avouons-le, à rappeler aux autres tout ce que Dieu a pu faire pour nous, toutes les fois où il nous a utilisés, il nous a bénis puissamment dans une situation ou d'une autre, dire les belles victoires que l'on a. C'est de la nature humaine de se vanter. Voilà. Donc, vantons-nous. Mais ça sert à quoi de se vanter ? En agissant de la sorte, on va mettre en avant non plus Christ, mais notre orgueil. Et puis, en ce sens-là, c'est comme si on s'attache de nouveau volontairement un élastique autour de la taille. Et ça va nous ralentir aussi de notre course, parce que étaler mon passé, ce n'est pas ça qui va me faire aller de l'avant. Il est préférable d'oublier ce qui est en arrière. Et en tant que disciple, se rendre disponible pour Dieu et entrer dans les nouveaux défis qu'il a pour moi, qu'il a pour toi, de nouvelles victoires qu'il a pour nous. Et pour cela, ben, il faut que j'aille de l'avant. C'est aussi intéressant parce que si on laisse de côté tout ce qui est derrière nous, on ne court plus en tournant la tête. Parce que si vous courez en tournant la tête, vous faites un contour, enfin, vous n'arrivez pas à aller tout droit. Et il faut mieux courir la tête droit devant, vers le but. Donc, oublier, c'est un choix. Est-ce que nous l'avons fait ? Est-ce que nous avons de nouveau ce même choix à faire, d'oublier ces belles années, d'oublier ces échecs, d'oublier aussi ces réussites et ces succès. Ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est tends vers ce qui est en avant, cours. Alors c'est un petit peu compliqué parce que devant, il y a deux choses qui nous semblent un petit peu particulières. D'abord, il y a le prix, puis aussi il y a l'inconnu. Alors quand on parle du prix, ce n'est pas le prix à payer, parce que nous, on veut toujours compter, nous, on dirait, qu'est-ce que ça va me coûter de suivre Jésus ? Eh bien, je peux vous donner la réponse tout de suite, tout. Ça va tout vous coûter, parce que lui, ça lui a tout coûté. Un jour, j'ai lu une histoire vraie d'une femme qui était dans un endroit où l'évangile était interdit, et puis... Il y avait un couvre-feu, et elle passe, et il y a des hommes d'armes qui sont devant. Puis il lui dit, « Que fais-tu dehors ?» Puis il lui dit, « Mais je me rends à la lecture d'un testament. » Et puis, en fait, elle allait à une rencontre chrétienne. Et puis, elle fait cette soirée avec ses amis chrétiens, puis elle rentre, et elle rencontre les mêmes personnes. Puis il lui dit, « Alors, il t'a donné quelque chose ?» Puis elle lui répond, il m'a tout donné. Et je pense que notre prix aussi pour lui, c'est aussi de tout lui donner. Alors ce n'est pas le prix à payer, c'est le prix qui nous attend, dans la mesure où nous remportons cette course. C'est clair que si je participe à une course, c'est pour la gagner, ou en tout cas pour la finir, et pas d'abandonner en cours de route. Et puis, Paul dira... Pour obtenir le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ, ben, c'est-à-dire que je ne sais pas où je vais quand je cours. Ben, si je savais, je saurais mieux organiser ma vie. Mais Dieu, il ne me montre pas tout. Peut-être pour vous, vous avez de la chance, mais pour moi, le chemin est bien balisé, mais pas après pas. Ce qui fait que je peux courir, mais je ne peux pas savoir vraiment où je vais, sinon vers la gloire. Et cet inconnu nous fait un petit peu peur, parce qu'on ne sait pas si Dieu, si je te donne toute ma vie, qu'est-ce que tu vas faire de moi. Et cette peur peut nous couper les jambes, littéralement. On ne peut plus courir. Et cela a de particulier qu'elle va vraiment nous paralyser et nous empêcher de vivre les nouveaux projets que Dieu a sur son cœur pour ma vie, pour mon couple, pour mon Église. Pierre, reprenons cet autre disciple, a marché sur l'eau. Trop extraordinaire, vous. Vous avez déjà essayé. d'être sous la piscine. Il faut du courage pour faire le premier pas. Il faut de la foi pour braver l'inconnu. Mais Pierre l'a fait. Puis les disciples ont dû aussi avoir du courage et de la foi pour continuer l'œuvre que Jésus avait commencée. Et cette œuvre dans le monde entier, alors que Jésus n'était plus là, dans des pays, dans des cultures inconnues, il faut du courage. Non seulement il faut du courage et de la foi, mais il faut aussi de la persévérance. Parce que c'est bien de commencer, mais il faut aussi terminer, il faut aussi finir. Et dans une course, c'est la même chose. Il faut du courage, de la foi, mais de la persévérance pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, Dieu désire nous dire ceci, reprends ta course si tu t'es arrêté. Relève-toi si tu t'es assis. Réveille-toi si tu t'es assoupi. Alors, je ne connais pas bien votre couple, je ne connais pas bien votre vie chrétienne, mais je sais qu'on a beaucoup d'excuses quand on est arrêté pour ne pas repartir. On a tellement de bonnes excuses. J'ai été déçu, j'ai été humilié, j'ai tellement souffert, j'ai perdu espoir, on n'est même pas venu vers moi pour me demander pardon, pour m'encourager, pour me serrer la main, on m'ignore. Vous savez, des choses qui sont du ressenti, qui sont peut-être des choses douloureuses, on a tellement d'excuses que ça nous suffit pour rester assis, endormi, assoupi. La parole de Dieu pour aujourd'hui est celle-ci. Oubliez ce qui est en arrière et tendez vers ce qui est en avant pour que les années qui sont devant vous soient les plus belles que vous n'ayez jamais eues. Amen. Et on va prier. Chacun de nous, Seigneur, on voit notre vie personnelle avec toi. Pour ceux qui sont mariés, on voit notre vie de couple. On voit aussi notre vie d'église. Et nous désirons être non seulement interpellés, mais aussi co-ouvriers avec toi dans cette œuvre que tu as placée devant nous. Si ce matin, eh bien, on est concerné par cette parole qui dit « Oublie ce qui est en arrière, relève-toi, cours, tends vers ce qui est en avant, reprends ta course. » Eh bien, j'aimerais vraiment vous encourager, parce qu'il faut être courageux, à vous lever où vous êtes, et puis peut-être à dire ces mots qui sont tout simples, mais qui veulent tellement dire de belles choses pour le présent et pour l'avenir, en disant « Seigneur, je reprends ma course. » Que ce soit dans votre vie chrétienne, que ce soit dans votre vie de couple ou dans la vie de l'Église, aujourd'hui nous choisissons d'oublier ce qui est en arrière et de reprendre la course. Si c'est votre cas, je vous propose de vous lever. On ne va pas faire forcément trop longtemps. Et Dieu aime les nouveaux départs. Et vous qui vous levez, je vous dis, mais ce qui est devant vous est meilleur que ce qui est derrière vous. Parce que Dieu a des projets pour vous. Dieu a des projets qui ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, des projets d'espérance, des projets de vie, des projets de miracle. Des projets de croissance, des projets d'épanouissement. Je vous propose de dire à haute voix ces quelques mots. Seigneur, je reprends ma course. Alléluia. Je vous propose de vous asseoir. Et je vais continuer ma prédication, en disant, voilà, vous vous dites peut-être à juste raison, moi ça va, Moi, je cours toutes les courses. J'ai aucun souci. Alléluia. L'Église aussi a besoin de gens comme ça. Maintenant, ce que j'ai dit, vous allez le dire à quelqu'un que vous connaissez, un chrétien qui a arrêté de courir. Et vous en connaissez. Et dans votre cœur, il y a peut-être un nom déjà qui est sorti, en disant, mais ce chrétien, voilà, je prie pour lui, cette chrétienne, je prie pour lui, j'ai peut-être besoin d'être convaincu par Dieu, et Dieu veut le faire aujourd'hui aussi, en disant, mais sois ce Paul pour cette personne, et va vers cette personne, passe du temps avec elle, en disant, voilà, tu as souffert, oublie le passé, relève-toi, reprends ta course dans ta vie, dans ton couple, dans l'Église. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu va grandir. C'est pas la prédication aujourd'hui, elle n'était pas pour moi. C'est la prédication, c'est un tremplin pour que ma vie soit aussi celle de Paul, celle de Pierre, celle de ces hommes qui et de ces femmes qui font que la Bible est le plus beau livre du monde. Et j'aimerais aussi vous demander, pour celles et ceux qui le désirent, de choisir de relever quelqu'un. De choisir de dire à quelqu'un, reprends ta course. Et puis de nouveau, on va se lever et on va citer le nom. Alors on ne va pas le citer très fort pour que tout le monde l'entende, mais on va dire, Seigneur, que Jean-Jacques reprenne sa course. Et en disant ceci, vous allez vous engager, non seulement à prier, mais à faire que cette personne puisse repartir, en partageant aussi un moment de sa vie et en lui partageant aussi ce que vous avez entendu et compris aujourd'hui. Amen. Alors, de nouveau, là, c'est peut-être assez inhabituel, mais il faut du courage, il faut de la foi, il faut de la volonté. Et alors que vous avez un nom dans le cœur, et peut-être depuis longtemps, peut-être depuis des années, bien aujourd'hui vous vous levez et vous dites que telle personne reprenne sa course et je vais être l'instrument de Dieu pour que cette personne le fasse. Et je veux croire que Dieu va faire de grandes choses et que pour ces gens aussi, les plus belles années, c'est celles qui vont être devant eux. Je propose aussi de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, à haute voix de dire, Seigneur, que, et le nom de votre contact, reprenne sa course. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus.